en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, ceux qui n'aiment pas le chocolat dans votre large entourage doivent se compter sur les doigts d'une main. Mais pourquoi raffolons-nous tous de cette préparation ? Qu'est-ce que le cacaoyer a de plus que les autres arbres pour nous rendre à ce point accro à la poudre de fèves de cacao ? Boisson, nappage de gâteau, enrobage de biscuits, ganache, truffes ou tout simplement tablette à croquer, la fève de cacao est associée à la gourmandise, au dessert, à la fête, au plaisir. Si le cacao nous met à ce point dans un état d'euphorie, a-t-il des vertus thérapeutiques ? Cette question était le thème d'une conférence de la Fondation Pasteur, Innovation, Alimentation, Santé, une conférence qui s'est déroulée à Arbois, ville d'enfance de Louis Pasteur, et que Canal Academy va vous retransmettre dans quelques instants. Avant d'aborder les vertus d'une tablette, il convient de revenir dans un premier temps sur toutes les étapes de transformation, de la fève jusqu'au chocolat. Vincent Pépin, chargé de production chez Barry Calbo, retrace pour nous toute la filière. Un secteur qu'il connaît sur le bout des doigts puisque son entreprise est numéro 1 mondial du chocolat de couverture. Comprenez qu'il livre exclusivement les industriels et les chocolatiers. Pour vous donner une idée, un chocolat sur deux mangé dans le monde provient de cette maison. On l'écoute sans saliver.
Alors voilà comment va se dérouler la première partie. En fait, j'ai séparé la récolte jusqu'à la poudre et beurre de cacao. C'est la partie semi-produit. Donc on va voir les différentes étapes qui sont la récolte et cabossage, la fermentation séchage, le décorticage torréfaction, le broyage affinage, la masse de cacao. Donc il faut savoir, hein, grosso modo, que l'Afrique produit 60% du cacao mondial, 25% pour l'Amérique et 15% à peu près pour l'Asie du Sud-Est. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, elle seule, produit 45% du cacao mondial. Donc on a des pays en fait qui sont très spécifiques, comme en Afrique, la Tanzanie et Sao Tomé. Donc Sao Tomé, c'est une petite île qu'il y a ici. Vraiment une très petite île où il y a quasiment que des plantations de cacao et on a vraiment un terroir, quelque chose d'exceptionnel, je dirais. De même pour les fèves Java, Malaisie, Sumatra et même Sulawesi, ce sont des terroirs très spécifiques. Donc on pourrait l'associer un petit peu comme le vin, je veux dire, chaque pays a sa particularité et au niveau de la masse de cacao, au niveau du chocolat, ça le consommateur va le ressentir. Et enfin, au niveau de l'Amérique, si vous prenez le Mexique ou l'Équateur, ce sont vraiment aussi des masses très spécifiques puisqu'on est sur des terres volcaniques. Donc je vais vous parler maintenant du process, alors de la récolte des cabosses. Alors les fèves de cacao sont contenues dans les fruits du cacaoyer qu'on appelle les cabosses. J'en ai une au niveau de la main là qui est conservée dans le vinaigre. Voilà à quoi ressemble une cabosse. Et à l'intérieur, on va trouver les fèves de cacao. Voilà à l'intérieur d'une cabosse. En fait, on a les fèves de cacao qui sont entourées d'un mucilage blanc. Alors, leur maturité est appréciée en fonction de la couleur et du bruit. Donc, la récolte, elle s'effectue manuellement 2 fois par an. Ça dépend des saisons et du climat du pays. Généralement, c'est à peu près mars-avril et en ce moment, octobre-novembre. Et donc, la personne, en fonction de la couleur et du bruit, la personne va tapoter sur les cabosses. En fonction de la résonance, on va voir si elle est mûre ou pas. Donc la fermentation des fèves, process suivant, donc les fèves elles sont entourées de la pulpe mucilagineuse qui sont extraites par écabossage, c'est ce que je vous faisais voir, donc cette pulpe blanche, et ensuite elles vont être placées en bois, dans des caisses en bois pour les fermenter. Donc il y a 2 techniques en fait de fermentation, soit elles sont mises en bois, soit elles sont mises sur des feuilles de bananier, c'est encore des techniques traditionnelles en Afrique, hein, en tas coniques, et on va recouvrir de branchages pour permettre la fermentation. Donc c'est une fermentation qui dure à peu près 6 à 7 jours et je dirais que c'est une étape extrêmement importante. En fait, c'est l'étape qui va préconiser les précurseurs d'arômes qui vont permettre de donner au chocolat tout son éclat, toute sa volupté. Donc au niveau de la fermentation, on va avoir une modification de la couleur, le développement des arômes et la modification du goût. Donc 6 à 7 jours, c'est à peu près un temps moyen de fermentation. Il faut savoir que si ce temps est dépassé, on peut avoir des effets indésirables au niveau de la fève de cacao, des effets de putréfaction et avoir une fève qui soit après dépréciée au niveau du marché. Si cette fermentation, elle, est inférieure à 6 jours, donc tous les composés ne seront pas développés, on va avoir un goût d'amertume, d'astringence au niveau du chocolat. Donc je ne veux pas rentrer trop en détail au niveau des différents stades de la fermentation parce qu'elle est relativement complexe. Alors pour les connaisseurs, elle passe par une phase anaérobie et puis par une phase aérobie où il va y avoir plein de processus chimiques et enzymatiques qui vont justement développer tous les précurseurs d'arômes. Alors, après la fermentation, on a l'étape de séchage. Alors, ce séchage, il est obtenu par action de la chaleur et de l'aération. Donc, on a deux modes. Soit il est naturel, et ben, en fonction du pays producteur, c'est l'énergie solaire. On a des personnes qui vont étaler ces fèves de cacao et les brasser régulièrement pour qu'elles sèchent. Soit, si elle est dans des pays plus tropicaux où on n'a pas assez de soleil et trop d'humidité, on a des séchoirs industriels. Donc, deux types de séchoirs. C'est des séchoirs, en fait, où on étale les fèves et on a des râteaux qui viennent brasser régulièrement les fèves de cacao avec de l'air chaud en dessous pour, justement, évaporer l'eau résiduelle dans la fève de cacao. Et puis, on peut aussi avoir des séchoirs rotatifs. Donc, c'est au niveau de cette étape que la couleur va se modifier et il faut absolument qu'à la fin du séchage, la fève de cacao ne contienne pas plus de 8% d'humidité. Alors 8% d'humidité, c'est extrêmement important, car si on a 10-12%, ce qui peut arriver, on va avoir des problèmes de stockage et de transport. Alors l'étape suivante, c'est le nettoyage, décorticage, torréfaction. Donc les fèves de cacao arrivent dans l'entreprise où elles sont déchargées en vrac ou en sac. Alors quand je dis en vrac, elles viennent carrément d'Amsterdam en camion, 20 tonnes à peu près. Et dans un premier temps, on va éliminer les pierres, les morceaux de ficelle, la poussière. Et ensuite, on va vraiment passer à l'étape de décorticage, donc pour devenir le grain de cacao. Donc en fait, les fèves vont passer sur des radiants chauffants pour éclater la coque et récupérer uniquement le grain qui va subir toute une étape de tamisage que l'on appelle des tarares pour avoir la meilleure séparation possible du grain de la coque. Et ensuite, le grain va être torréfié. Alors la torréfaction, c'est une étape aussi relativement importante, hein, puisque comme le café, c'est l'étape où on va développer l'arôme du cacao. Donc au niveau de cette torréfaction, au niveau industriel, on a deux modes de torréfaction. Donc la torréfaction soit dite naturelle, où on a uniquement la fève de cacao qui va passer dans des gros tambours qu'on va chauffer à peu près autour de 120-130 degrés pendant 20 à 40 minutes. Donc faut savoir que le couple temps-température est relativement important en fonction de l'origine et du devenir du chocolat que l'on veut faire. Et puis il y a la torréfaction alcaline. Alors là, c'est plutôt l'orientation vers la poudre de cacao, puisqu'on va mettre une solution de carbonate de potassium pour monter jusqu'à un pH de 8, 8,5, pour avoir des poudres de cacao très rouges, voire noires. Donc c'est au niveau de cette étape-là qu'on va rajouter le carbonate de potassium, si on oriente plus la masse de cacao à faire de la poudre de cacao. Donc l'étape suivant la torréfaction, c'est l'étape de broyage-affinage. Donc là, on est toujours à l'étape solide, le grain il est broyé en fines parties. Il va subir en fait trois étapes au niveau de l'affinage. Donc d'abord un broyage grossier, c'est des broyeurs à marteau. Puis après il va passer dans une meule qu'on appelle moulin triple. Donc c'est une meule en fait, une meule fixe avec une meule mobile où le grain lui va être complètement liquéfié. Donc là à partir de ce moment-là, on a quelque chose de liquide. Là on est encore dans la partie solide. Là la fève de cacao est devenue liquide. Et la dernière étape de l'affinage, c'est le passage au niveau des attritores. Donc cette masse de cacao très grossière va arriver dans ces attritores où on a des billes qui vont projeter violemment contre la paroi de ces attritores et qui vont broyer la masse finement. Donc on recherche la plupart du temps une masse à entre 20 et 30 microns de finesse. Donc c'est à l'issue de cette étape qu'on va obtenir la masse de cacao. À ce niveau-là, on a deux issues. La masse de cacao va nous servir à deux choses. Soit elle part en camion citerne liquide, comme c'est le cas ici, pour aller au niveau de la chocolaterie et la fabrication du chocolat qu'on va voir dans un deuxième temps. Ou soit elle part au niveau des presses et le pressage, on va obtenir tout simplement la poudre de cacao. Donc je vais commencer par cette filière de pressage, donc de poudre de cacao. Donc la masse de cacao, elle est réchauffée avant le pressage. Elle est ensuite pressée pour séparer la matière grasse de la matière solide. On va emprisonner la masse et on va serrer jusqu'à 500-600 bars de pression en fonction de la matière grasse désirée du tourteau. Donc, faut savoir qu'au niveau industriel, il n'y a que deux types de matière grasse au niveau des poudres de cacao. Il y a la poudre de cacao maigre, donc qui fait à peu près 10-12% de matière grasse et qui implique une pression de 600 bars. Et la poudre de cacao grasse qui fait entre 20 et 24% de matière grasse. Et là, on va faire des poussées à peu près à 200-300 bars de pression. Donc, au niveau du process, on va séparer d'un côté le beurre de cacao qui va couler dans les goulottes ici. Et de l'autre côté, la partie solide, le tourteau, qui va être broyé ensuite pour faire la poudre de cacao. Alors, ces grosses galettes, elles font à peu près une vingtaine de kilos. On va les concasser pour qu'elles aient à peu près la taille d'une noix. Et puis, ces morceaux de tourteau, on va les envoyer dans des broyeurs. Alors souvent, c'est des broyeurs à broches. Donc on a un plateau fixe et un plateau mobile. Et on a des broches qui sont séparées de quelques dixièmes de millimètres qui vont donner la finesse de la poudre de cacao. Donc ces morceaux de tourteau sont projetés violemment sur ce broyeur à broches. Et on va avoir une poudre de cacao relativement fine. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on va avoir une surchauffe au niveau de la poudre. La poudre va sortir à peu près à 60 degrés et on ne peut pas la conditionner à cette température, sinon on risque d'avoir de très 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 gros problèmes. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va la passer d'abord dans un circuit, on ne voit pas sur cette photo, mais on a des serpentins où on fait circuler de l'eau froide pour pouvoir refroidir la poudre dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on la passe dans des énormes vis de stabilisation. Alors ces vis de stabilisation, elles ont pour but en fait de favoriser une bonne cristallisation du beurre de cacao. C'est pour faire la maturation, comme on dit, avoir une bonne maturation des cristaux de beurre de cacao. Donc le temps de séjour est à peu près de 20 à 30 minutes. Et à l'issue de cette étape de séjour, on va pouvoir donc ensacher la poudre de cacao. Maintenant la filière beurre, ben le beurre qui sort des presses, il faut tout simplement le filtrer, le désodoriser. On peut pas le renvoyer dans le circuit de chocolaterie, puisqu'il faut savoir qu'au niveau du beurre de cacao, on a relativement beaucoup de particules fines, comme on dit. Donc la première chose à faire, c'est d'abord une filtration pour avoir un beurre qui soit clarifié. Et la deuxième opération indispensable, c'est l'injection de vapeur sous haute pression pour désodoriser ce beurre. Car on a beaucoup d'acidité et d'acides gras volatiles qui ont été formés pendant la fermentation et dont il faut se débarrasser. Sinon, on aurait quelque chose, un chocolat vraiment désagréable au goûter avec beaucoup d'amertume et même un petit goût de rance. Donc voilà comment se passe l'ensachage. Donc au niveau industriel, ça peut paraître un peu étonnant. Donc on conditionne la poudre de cacao dans notre entreprise hein, en big bag d'une tonne. Ça peut aller de 800 kg à une tonne. Souvent, c'est les formats classiques. Et sinon, les plus petits formats, c'est les sacs de 25 kg, style Van Houten, que vous retrouverez après dans votre grande surface en petit pot de 500 grammes ou 1 kg, quoi. Et on cherche à avoir au niveau de la poudre un pouvoir colorant très fort. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'au niveau de la torréfaction, on utilisait de la potasse, du carbonate de potassium pour avoir une poudre relativement rouge. Donc c'est le cas de la Van Houten que la plupart connaissent, qui est une poudre qui est relativement rouge, qui tire un petit peu même vers le noir. Et puis on a d'autres poudres en fonction de l'utilisation, la poudre naturelle où là, bon ben il y a aucun ajout. Et puis la finesse du broyage, évidemment, on veut pas une poudre qui soit grossière au niveau du palais, on veut quelque chose dans le lait qui soit parfaitement soluble. Et donc voilà ces deux critères qui sont vraiment recherchés au niveau de la poudre. Autre chose, j'oubliais, c'était très important au niveau de la vis de stabilisation, au niveau de la température de la poudre. La poudre, je vous ai dit qu'elle restait entre 20 et 40 minutes dans ces énormes vis qui étaient refroidies à peu près à 20-22 degrés. Alors des soucis en production des fois peuvent arriver. Si jamais cette poudre, elle vient à monter à 25-26 degrés, voire plus, on va avoir un mottage. Alors un mottage, c'est-à-dire la poudre de cacao va pas motter tout de suite, elle va durcir au bout d'une semaine ou 15 jours, et là quand elle arrive chez le client, ça peut être dramatique parce que le client ne peut pas l'utiliser. Et inversement, si au niveau de la température on n'est pas autour de 20-22 degrés, la poudre peut avoir une reprise d'humidité et avoir des développements bactériens qui sont vraiment très dérangeants. Alors quand je parle de mottage, j'espère que c'est clair pour tout le monde, hein, c'est-à-dire une poudre qui est relativement dure, hein, qu'on n'arrive pas à casser. Hein. Donc ça, c'est une mauvaise cristallisation du beurre de cacao. Donc voilà, j'en ai fini avec cette première partie uniquement de la fève de cacao jusqu'au produit semi-fini, donc c'est-à-dire à la masse. Et maintenant, on va voir le process du chocolat proprement dit. Donc je ne peux pas parler du chocolat sans parler des premières étapes préalables à la fabrication de la masse de cacao. Donc au niveau du chocolat, on va avoir quatre grandes étapes. Alors je vais reprendre en détail chacune de ces étapes, le dosage et mélange des ingrédients. Donc il faut savoir que le chocolat, eh ben, c'est tout simplement de la masse, du beurre de cacao, du sucre et éventuellement de la poudre de lait pour le chocolat au lait. En fait, j'oublie un petit quelque chose, c'est un émulsifiant. Je l'ai pas mis là, mais on va parler un petit peu plus tard. Donc voilà tout simplement les ingrédients pour faire un chocolat, tout simplement. Donc un système de dosage permet de peser les matières premières l'une après l'autre dans un pétrin. Donc on va faire descendre les quatre ingrédients en même temps. On va le laisser malaxer à peu près une dizaine de minutes dans le pétrin. Et puis après, on va commencer les étapes de pré-broyage et de broyage. Donc cette étape de pré-broyage, elle est vraiment importante parce qu'elle va permettre de réduire les particules qui sont relativement grossières. En fait, ces particules qui font à peu près 750 microns, c'est-à-dire presque un millimètre, elles sont amenées par les cristaux de sucre. et on va les réduire entre deux cylindres pour pouvoir être travaillés par la suite. L'étape suivante, c'est l'étape de broyage. Donc ça va permettre d'obtenir la finesse définitive du chocolat. La taille des particules est progressivement réduite par passage entre 5 cylindres maintenus à température. Et c'est au niveau de cette étape que la couleur, le goût, la texture se modifient. Et on va régler aussi bien physiquement que chimiquement la finesse du chocolat. Parce qu'à cette entrée-là, on arrive à 250 microns. Donc ça, c'était sortie pré-broyeuse. Notre pâte, en fait, arrive entre ces cylindres. Les cylindres tournant en sens inverse vont faire remonter le produit. Et l'espacement entre les cylindres diminue à chaque fois. Et on va obtenir la finesse souhaitée autour de 25 microns. Alors 25 microns, c'est à peu près une norme classique de finesse pour un chocolat. Les chocolats très fins peuvent descendre jusqu'à 16-17 microns, les plus grossiers autour de 30-35 microns. Mais il faut savoir que à partir de 30 microns, le chocolat en bouche, on commence à avoir une texture sableuse qui peut devenir vraiment désagréable. Donc ça veut dire qu'au niveau industriel, un mauvais réglage de ces machines, c'est une catastrophe au niveau du chocolat. On peut plus rattraper un chocolat qui a été raté au niveau de la finesse. Donc il va falloir faire des dilutions par la suite pour pouvoir récupérer le raté qui a été fait en production. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a quelque chose qui est relativement encore visqueux. Et à la fin, quand on obtient notre, entre guillemets, une poudre de cacao, on le voit peut-être ici, vous voyez bien sur l'image, c'est pas du tout liquide, c'est complètement sec. Alors qu'à la base, on a bien de la masse, du beurre cacao qui est liquide et du sucre. Et on obtient ici des paillettes qui sont relativement sèches au toucher. Donc l'étape suivante, je dirais, c'est l'étape pour moi la plus importante au niveau du process de fabrication du chocolat. C'est le fameux terme de conchage. Donc je pense que la plupart des personnes ont déjà entendu le terme de conche ou de conchage, qui veut dire tout simplement un brassage. On va faire un brassage intensif dans ces énormes machines qui peuvent recevoir en principe à peu près 7-8 tonnes de chocolat, et on va brasser ça pendant en moyenne, je dirais, 8 heures. Alors les temps aussi là sont variables. Les temps, ils peuvent être un petit peu plus courts, souvent c'est pas tout à fait le cas, ça peut descendre à 6 heures, ou ils peuvent être relativement plus longs, ils peuvent monter jusqu'à 24 heures pour certaines qualités de chocolat. Donc pour des qualités où on veut un maximum de goût, une fève particulière, on peut avoir des temps de conchage qui sont relativement longs. Donc le conchage, il se passe toujours en deux étapes. On a une étape de conchage à sec, comme on dit, et puis une étape liquide. Dans le conchage à sec, c'est simplement un travail mécanique par malaxage, et on va avoir un échauffement dans la conche par toutes ces frictions. Donc la conche, elle a besoin d'être refroidie en permanence. Il faut savoir ici, la poudre, on va dire la poudre, hein, qui arrive sous forme de paillettes ici, arrive à peu près à 35-40 degrés, et au niveau de la conche, on est à peu près à 80-85 degrés, dû à l'échauffement. Donc on est obligé de refroidir en permanence la conche. Donc c'est ce cisaillement intense qu'on a créé pour développer justement l'arôme du chocolat, et on va éliminer les acides gras volatiles, donc on appelle nous les AGV, et les différents acides qu'on peut avoir qui sont résiduels de la fermentation. Donc sans cette étape de conchage, on ne pourrait pas développer, je veux dire, l'arôme du chocolat, parce qu'on aurait trop d'acidité au niveau du chocolat au final, on aurait quelque chose qui serait relativement amer, relativement insipide. Donc pendant 7 heures, la température s'élève, on va développer vraiment le goût du chocolat, et puis on va diminuer l'humidité. Il faut savoir qu'un chocolat doit contenir moins d'1% d'humidité. Arrivé avant conche, on est à peu près à 2-2,5%. Donc, et la dernière étape, c'est l'ajout de beurre de cacao. Donc, c'est le conchage liquide. Ça se fait souvent dans la dernière heure. Et nous, on appelle ça le raffinage. Donc, c'est pendant cette étape-là, on passe d'une étape toujours solide. On va mettre le beurre de cacao et on va obtenir le chocolat final que vous mangez tous les jours. Donc, avec ce beurre de cacao, on va rajouter l'émulsifiant. L'émulsifiant qui va permettre au chocolat d'être pompé. Au niveau industriel, on est obligé d'avoir cet émulsifiant pour la fabrication. Donc, deux choses aussi au niveau du client, c'est que le client, lui, va rechercher une certaine viscosité, une certaine limite d'écoulement. Donc, tout simplement, si je reprends le terme de viscosité, c'est la capacité d'un produit à s'aplatir sur une surface plane. Alors, si je prends comme exemple le Pépito, si au niveau de l'industriel, il met 5 grammes de chocolat, il faut que ces 5 grammes de chocolat se répartissent sur la totalité de son biscuit. Donc ça, c'est le terme de viscosité, et ça, c'est très important pour nous. Le terme de limite d'écoulement, ça sera le Mikado. On veut que le biscuit va tremper dans un bain de chocolat, et on veut quand il se relève qu'il n'y ait pas un filament. Donc on veut que le chocolat coupe sec. Et donc ça, c'est deux termes qui sont très importants au niveau du contrôle qualité en chocolaterie. Et donc c'est pour ça qu'on utilise de la lécithine de soja le plus souvent. Et c'est à cette dernière étape au niveau du conchage liquide qu'on la rajoute. Et donc au final, ben, on obtient le chocolat. Alors peut-être aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se posent la question dans la salle, que veut dire un chocolat à 75% de cacao ? Ben, tout simplement, c'est la totalité de votre produit moins le sucre. Il faut savoir que le cacao total, c'est la masse de cacao plus le beurre de cacao, tout simplement. Donc si vous avez un chocolat qui met 55% de masse de cacao et 15% de beurre de cacao, 55 plus 15, 70, donc vous avez un chocolat à 70% de cacao. Donc forcément, vous aurez 30% de sucre derrière. Effectivement, vous aurez à peu près 29% de sucre et 0,6% de lécithine, car vous avez souvent à peu près 0,6% maximum de lécithine dans un chocolat. Et puis quelques traces d'arômes en fonction du chocolat que vous achetez. Et puis pour le lait, ben, vous avez la poudre de lait. Et pour le chocolat blanc, ben effectivement, vous n'avez pas de masse de cacao puisque le chocolat est blanc. Et c'est uniquement du beurre de cacao, de la poudre de lait et du sucre. Alors voilà maintenant le chocolat liquide, comment nous on le transporte. Et ben en fait, on va le transporter par camion. Alors le chocolat, lui, il est stocké en tank. Donc c'est des tanks de 25 tonnes souvent. Et on contrôle la matière grasse, la fluidité, le goût. Donc on a des panels de dégustation qui vont déguster pour voir s'il n'y a pas un écart par rapport à une production, par rapport à une autre. Et puis on va aussi filtrer ce chocolat avec des tamis vivants pour éviter tout corps étranger dans une citerne. Et le chocolat liquide, il peut être maintenu 1 à 2 jours. En fait, il peut être maintenu jusqu'à 7 à 8 jours sans réchauffement pour être transporté. 25 tonnes de produits qui sont à peu près autour de 55 degrés, 60 degrés, se refroidissent pas comme ça en quelques heures. Hein. Donc le chocolat, il peut être transporté dans des pays relativement froids sans avoir besoin de double enveloppe. Donc maintenant, je vais vous parler en quelques mots du moulage du chocolat. Donc l'étape de moulage, on a différentes étapes. Alors c'est quelque chose qui est très délicat. On a la première étape, c'est le tempérage. La deuxième étape, c'est le pesage des poses, le refroidissement et le conditionnement. Donc la première étape du tempérage, en deux mots, le chocolat, il est dans les tanks à peu près à 45-50 degrés. Il va falloir le tempérer. Alors le tempérage, c'est extrêmement important, car si vous oubliez cette étape, vous avez quelque chose de granuleux et quelque chose de très sableux en bouche. Et au niveau visuel, vous aurez pas un chocolat brillant, un chocolat qui sera relativement terne, avec des occlusions d'air à l'intérieur, donc qui n'est pas du tout vendable. Donc au niveau chimique, on va descendre la température de 45 à 29 degrés. Et pourquoi 29 degrés ? Alors 29 degrés, en fait, entre 31 et 29 degrés, c'est qu'à 31, votre chocolat commence à solidifier. Et là, on va essayer d'initialiser la cristallisation. Donc à 31 degrés, on a les premiers cristaux qui se forment et on va le descendre à 29 degrés. Donc il passe dans une machine qu'on appelle une tempéreuse. On va descendre brutalement la température jusqu'à 10-12 degrés et par un système de racloir, on va ensemencer le chocolat pour initialiser la cristallisation. Donc on descend jusqu'à 29 degrés pour avoir une cristallisation complète et on va la remonter jusqu'à 32 degrés pour éliminer tous les cristaux qui ne nous intéressent pas. Donc on a des formes stables et des formes instables de cristaux dans le chocolat. La forme recherchée, c'est la forme bêta 5 et toutes les autres formes qui sont très instables, les formes alpha, elles ne nous intéressent pas du tout. Donc c'est pour ça que l'on remonte jusqu'à 32 degrés pour avoir vraiment le cristal recherché et uniquement. Je dis 32 degrés, on peut avoir une variation de 0,5, maximum 0,5 degrés en fonction du chocolat noir ou du chocolat au lait, mais c'est une étape primordiale pour le chocolatier pour pas louper un moulage. Et donc sous agitation permanente, cette étape permet d'amorcer la cristallisation du beurre de cacao et on va obtenir au final un chocolat brillant. Donc voilà, maintenant après, au niveau industriel, dans les moules, le chocolat tombe dans les trémies. Donc là, on a du chocolat tempéré. Hein, donc là, il est limite à cristalliser. Donc c'est un chocolat qui est relativement froid au toucher. Donc si vous le laissez sur une table, au bout de 2 minutes, il cristallise. Donc là, il est tout de suite déposé dans des moules qui vont être en fait tapotés pour favoriser une bonne désaération, pour enlever les occlusions d'air et pour avoir une bonne surface lisse. Donc voilà, le chocolat, lui, circule après dans un tunnel où l'air froid pulsé permet de cristalliser complètement le beurre de cacao. Donc à l'entrée ici, votre chocolat est à 32 degrés et puis il va passer dans ce tunnel où il va séjourner à peu près 1h30. Donc tout ça dépend bien sûr de la taille du moule, de la plaquette recherchée. Et on va avoir un abaissement de température progressive jusqu'aux alentours d'une quinzaine de degrés en sortie de tunnel. Donc ce temps de séjour, lui, va permettre vraiment la cristallisation totale du chocolat et d'avoir un aspect vraiment brillant à la sortie pour qu'on puisse bien le démouler et bien au niveau du packaging qu'il a derrière.
pas au niveau des différentes parois du packaging. En industrie, que ce qu'on peut sortir, on a des grosses tablettes en haut à gauche, des tablettes de 2,5 kg ou de 5 kg que l'on vend aux artisans boulangers, aux différents industriels. La photo numéro 2, c'est ce qu'on appelle le drops. Donc le drops, c'est ce qu'on retrouve dans les crèmes glacées, dans les viennoiseries. Donc c'est des toutes petites boules de chocolaterie. De chocolat, excusez-moi. Et la troisième photo, c'est le fameux bâton boulanger. Ben, c'est ce qu'on retrouve dans les viennoiseries, les pains au chocolat. Voilà trois formes possibles. Au niveau du conditionnement, vous avez d'énormes machines qui vont emballer automatiquement ces gros pains de 2,5 kg ou 5 kg. Et puis tout au long du process, on a des contrôles. Il ne faut pas les oublier, les contrôles. Il faut garantir aux consommateurs l'intégrité du produit et qu'il n'y ait pas de corps métallique. Donc on a en permanence, que ce soit au niveau du semi-produit ou du produit fini, des détecteurs magnétiques pour éliminer ou écarter tout risque de soucis par un corps étranger. Et donc après, le produit est palettisé et envoyé par cargo à travers le monde entier, quoi.
Vous venez d'entendre Vincent Pépin qui s'exprimait sur les différentes étapes de la fève de cacao, en passant par la torréfaction, le raffinage, le moulage. Poursuivons sur les effets du cacao sur nous les consommateurs. Le chocolat fait-il vraiment grossir, comme on le dit? Pourquoi est-il un antidépresseur? Manger du chocolat retarde-t-il le vieillissement? Réponse à toutes ces questions sans plus tarder avec Michel Barrel, directeur de recherche au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il est également expert international en technologie post-récolte pour le cacao et le café.
Ce soir, mon propos va porter sur les aspects nutrition et santé du chocolat. Je ne suis pas nutritionniste, je suis chercheur en biochimie, mais nous avons eu quelques expériences dans notre laboratoire, des gens qui ont fait des tests de pharmacie, sur lesquels je me référerai pour tout ce que je vais vous raconter, et puis également des travaux qui sont menés par le docteur Hervé Robert, qui est un nutritionniste chargé de cours à la faculté de médecine de Paris, et puis enfin il y aura une liste si vous la souhaitez à la fin de l'exposé, d'autres travaux qui ont été faits, notamment aux États-Unis, qui sont très très sensibles à l'aspect nutrition lié au chocolat. Alors, bon, bien entendu, tout le monde sait que le chocolat est un aliment éminemment énergétique, hein, par sa teneur en sucre et par sa teneur en matière grasse. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on rajoutait dans la fabrication du beurre de cacao. En finale, même si c'est une recette secrète de chaque chocolatier, le beurre de cacao représente entre 30 et 35% du produit. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, je précise tout de suite pour les dames qui vont dire « Ouh là là, je mange plus de chocolat », le beurre de cacao se fixe très peu sur le tissu adipeux humain. Je reviendrai là-dessus. Et puis le sucre, donc le sucre, plus le chocolat est faible en cacao, plus il y a de sucre. Donc là aussi, on a un aliment énergétique. Globalement, on peut voir que 100 grammes de chocolat, alors qu'il soit noir ou au lait, apporte aux alentours de 550-560 kilocalories. Donc c'est effectivement... Alors, on dit que le chocolat fait pas grossir. Si on est vautré toute la journée devant la télévision et qu'on mange 5 tablettes de chocolat, oui, on va grossir. Par contre, si on a une activité normale, on peut aller jusqu'à manger une demi-tablette par jour, il n'y a pas de souci. Alors, le chocolat contient également des polyphénols. Alors, les polyphénols, c'est des substances un petit peu plus compliquées que l'on trouve dans tous les fruits rouges, la myrtille, le raisin, et bien sûr, le chocolat. Alors, ces polyphénols, ils ont un gros avantage. C'est qu'ils nous protègent des dommages oxydatifs. Ils sont très très avides d'oxygène, hein, ils ont des fonctions antioxydantes, et grâce à ces fonctions antioxydantes, ils vont capter l'oxygène excédentaire que nous avons dans nos cellules et qui participe à leur vieillissement. Donc l'oxydation de nos cellules, elle est due au vieillissement. Alors l'oxygène, on en a besoin pour respirer, mais il y a des moments, il a un effet un petit peu négatif. Dans quoi on trouve des polyphénols? Donc je vous ai dit, dans tous les fruits rouges, dans le vin rouge, il y en a beaucoup. Dans le thé vert et dans le chocolat noir. C'est ce que j'appelle les aliments aux trois couleurs. Hein. Vin rouge, thé vert, chocolat noir. Le vin rouge, c'est bien, mais il y a aussi un peu d'alcool dedans, donc il faut faire un peu attention. Le thé vert, il y a quand même de la caféine. Un petit peu aussi dans le chocolat, mais beaucoup moins. Donc, le meilleur aliment, c'est le chocolat. Hein, pour ça. Et donc, ce sont des aliments, ces trois aliments-là, principalement, qui donc évitent certains risques de cancérisation dus aux radicaux libres et qui ralentissent notre vieillissement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors bon, pour mon cas, c'est déjà trop tard, mais les plus jeunes, je les invite à manger du chocolat dès maintenant pour qu'ils vivent très très longtemps, et Jeanne Calment sera certainement battue. Il y a certains polyphénols qui peuvent éventuellement présenter des risques de toxicité. C'est pas le cas des polyphénols du cacao. Donc, pas de souci. On peut manger du chocolat sans aucun problème. Bon, je vous ai dit, le chocolat contient également des lipides, donc c'est le beurre de cacao, hein. Alors, le beurre de cacao, il a quand même un rôle intéressant. Grâce à sa composition en acide gras, il participe à l'élimination du cholestérol. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, si je me faisais une tache de goudron sur le pantalon, ma mère me mettait du beurre dessus, puis après, elle passait le tout à la machine à laver. Ben, là, c'est exactement la même chose qui se passe. Le goudron, c'est le cholestérol. Le beurre, c'est le beurre de cacao. Et la machine à laver, c'est notre foie. Donc, le beurre de cacao va aider à dissoudre ce cholestérol qui risque de se déposer dans nos artères, l'emmener au foie, et le foie va l'éliminer. Attention à une chose. Je veux faire la distinction entre ce que disent les nutritionnistes et ce que disent les diététiciens. Les diététiciens sont des gens, j'ai rien contre les diététiciens, mais là, ils me fâchent un petit peu quand même, parce que ce sont des gens qui ne regardent que la composition chimique des aliments que l'on ingère, avant qu'on les ingère. Les nutritionnistes, à l'inverse, vont regarder ce qui se passe avec cette composition chimique une fois qu'elle est dans notre organisme. Et pour ce qui est du cacao, si un diététicien regarde le cacao, il va dire « Ah, il y a de l'acide oléique, c'est un acide gras insaturé, c'est bon pour la santé, 38%, pas mal. » Et puis il y a de l'acide stéarique, 35,4%, mais celui-là c'est insaturé, celui-là c'est un mauvais. Donc il y a autant de mauvais que de bon. Le beurre de cacao, c'est pas bon du tout. Donc voilà, effectivement, hein, le monoinsaturé, c'est l'acide oléique, c'est lui qui est le solvant du cholestérol, du LDL cholestérol, le mauvais. Et puis les acides gras saturés, l'acide palmitique et cet acide stéarique qui représente quand même 35%. Ce qui se passe, heureusement pour nous, c'est que dans notre intestin, cet acide stéarique se désature, il est transformé et il devient de l'acide oléique, qui est vasoprotecteur. Donc en fait, le chocolat n'amène pas seulement 38% de bon acide, mais il en amène plus de 70%. C'est la raison pour laquelle le beurre de cacao est effectivement assez intéressant pour l'élimination du cholestérol. Alors il n'empêche pas d'en avoir du cholestérol, mais il en enlève une petite partie. Donc, en résumé, cet acide oléique, il joue un rôle dans la protection vasculaire, il dissout les dépôts de LDL cholestérol, Donc il diminue les risques d'athérite, d'accident vasculaire, d'infarctus, et tout ce qui est facteur de thrombose également est diminué par la présence de cet acide oléique. L'acide oléique, c'est l'acide de l'huile d'olive. Hein. Alors bon, donc ce que je vous disais tout à l'heure à propos du beurre, hein, les triglycérides du beurre de cacao s'absorbent très peu sur le tissu adipeux humain, donc ne vous faites pas de soucis pour les prises de poids, dans des conditions alimentaires raisonnables. Et puis, le cacao contient des méthylxanthines, qui sont la caféine, que tout le monde connaît parce qu'il y en a dans le café, et la théobromine, qui est une molécule qui ressemble beaucoup à la caféine. Il y a juste un groupement méthyle en moins. Et ces deux composés ont des propriétés de dissolution, de déstructuration des lipides. Je suppose que les dames qui utilisent des crèmes de beauté ont vu que certaines crèmes avaient une composition qui contenait de la caféine. Donc c'est pour ces propriétés lipolytiques. Donc le chocolat en amène. Voilà, une raison de plus de manger du chocolat. Tout le monde a entendu dire que le chocolat, c'était un apport de magnésium important. Il n'y a pas que du magnésium, il y a énormément de minéraux et d'oligo-éléments qui sont apportés par le chocolat. Alors on va voir ici une colonne qui va nous montrer les besoins journaliers de l'adulte et puis les apports que le chocolat amène en quantité et en pourcentage du besoin journalier. Donc on voit qu'on a du magnésium, ça tout le monde le sait, hein, 33% de notre besoin quotidien si on mange une plaque de 100 grammes. Et du phosphore, 30%, c'est déjà pas mal aussi. Du potassium, 27%. Du cuivre, 25%. Du fer, 20%. Alors voilà, déjà, magnésium, phosphore, potassium, cuivre, fer, c'est déjà des éléments, des oligo-éléments extrêmement importants. Du calcium, il y en a un peu moins là, 13%. Je parle de chocolat noir, hein, je parle pas de chocolat au lait là. De l'iode, du fluor. Le fluor, c'est important pour les dents, et on verra tout à l'heure que le chocolat, c'est pas si mauvais que ça pour les dents. Et puis, du sodium et du nickel en quantité moins importante. Donc, vous voyez quand même qu'on couvre, avec les 5 premiers, on couvre plus de 20% de nos besoins journaliers en oligo-éléments. Rien qu'en mangeant 100 grammes de chocolat. Alors, bon, je vous ai dit une demi-plaque, alors on va diviser par deux, mais ça fait déjà quand même pas mal. En ce qui concerne les vitamines, cette fois-ci, le chocolat amène un équilibre vitaminique assez intéressant, mais en toute petite quantité. Hein. Donc c'est bien équilibré, mais l'apport est faible. La vitamine E, 18%, bon, c'est quand même pas mal. Et puis tout de suite, on descend. Hein. Vitamine D, 14%. Vitamine B5, 7,5%. B1, 5%. B2, 5%. PP, 5%. La B6, il n'y en a que 1%, puis alors là, vitamine A, il y en a 0,4, et puis après, il n'y en a quasiment plus. Hein, notamment la vitamine C, il ne faut pas espérer lutter contre la grippe en mangeant du chocolat. Alors, ces fameuses méthylxanthines maintenant, donc la théobromine et la caféine. Il y a plus de théobromine dans le chocolat que de caféine. Hein, en moyenne, 1,6% de théobromine et 0,4% de caféine. En moyenne, parce que ça va dépendre des variétés, des origines, des terroirs, etc., bien entendu. Alors tout ça, ce sont des substances d'éveil. Quand on a envie de se réveiller le matin, on prend un bon café. Le chocolat ne va pas amener autant de caféine, mais quand même, il en apporte un peu, et puis il apporte de la théobromine. Donc pour cette raison, le chocolat est un tonique. Et puis la théobromine elle-même, elle a des propriétés intéressantes, puisqu'elle permet la dilatation des bronches, donc quand on est enrhumé ou si on monte en altitude, eh ben, on sait très bien que les alpinistes mangent du chocolat, alors c'est énergétique, mais c'est aussi pour cette raison. Ça stimule le système nerveux central, et ça peut améliorer les performances musculaires. La caféine, bon, tout le monde le sait, c'est un tonique cardiaque, hein, elle augmente la vigilance et elle retarde l'apparition de la fatigue. Alors juste une petite anecdote, je ne sais pas s'il y a des fumeurs parmi vous, certains fabricants de cigarettes rajoutent du chocolat, de la poudre de cacao, cette fameuse poudre dont on parlait tout à l'heure, elle est rajoutée dans les cigarettes, non pas, enfin si, aussi pour les aromatiser, mais surtout parce qu'on s'est rendu compte que cette théobromine portée à très haute température, vous savez que le bout de cigarette, ça monte à des centaines de degrés, eh bien, cette théobromine se transforme en substance chimique qui crée l'accoutumance. Alors, maintenant, on va passer à des choses quand même un peu plus sympathiques. Les endorphines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une endorphine? Comme son mot l'indique, hein, endo, ça veut dire que ça vient de l'intérieur, et orphine, ce sont des substances dont la structure moléculaire est proche de la morphine. Mais c'est une espèce, c'est une espèce de morphine qui est sécrétée par notre organisme. Donc ces endorphines ont des propriétés euphorisantes, psychostimulantes, et le chocolat en possède. Il en possède 4, la phényléthylamine, la sérotonine, et puis en moindre quantité, la tyramine et la tryptamine. Donc on sait déjà que grâce à son magnésium, le chocolat est un antidépresseur, mais grâce aussi à ces substances, à ces endorphines. Donc il génère une meilleure résistance à la douleur. Et quand on mange du chocolat, j'imagine, puisque vous êtes ici, que vous êtes tous amateurs de chocolat, quand on mange du chocolat, on se fait plaisir, on est content, et donc on a déjà, parce que c'est comme si on sortait d'un bon film, pratiquement, on sécrète naturellement nos endorphines propres, surtout la sérotonine. Mais le chocolat vient nous en ramener une couche supplémentaire. Donc, on atteint l'extase quasiment. Hein. Alors, maintenant, je vais essayer de préciser certains ont dit qui traînent autour du chocolat depuis des années et des années. On dit que le chocolat constipe. Ben, si on regarde la composition chimique du chocolat, on s'aperçoit qu'il y a 10% de fibres. Bon, les fibres, ça quand même, ça facilite le transit intestinal. Par contre, les tanins, les polyphénols, hein, qui sont des tanins, eux, ils ont plutôt une action inverse, donc ils pourraient ralentir. Donc l'action des deux s'annule plus ou moins, et donc on peut dire que le chocolat ne joue absolument aucun rôle dans la constipation. Ça se passe dans la tête ou je sais pas où, mais c'est pas dû au chocolat. Les ulcères de l'estomac, ça c'est quelque chose qui est relativement récent. Ce sont des chercheurs japonais qui ont trouvé ça il y a 3-4 ans. Les acides gras du cacao viennent se mettre entre les deux membranes des bactéries qui sont responsables de l'ulcère de l'estomac, Helicobacter pylori, et détruisent cette bactérie. Donc l'action des acides gras du cacao détruit les bactéries responsables des ulcères de l'estomac. Voilà déjà une bonne nouvelle. Et puis alors, on dit que le chocolat fait mal au foie. Effectivement, si on prend son action sur la vésicule biliaire, on peut éventuellement trouver une explication à ce on dit. Parce que grâce ou à cause de la présence de sucre et de son acide oléique, l'absorption de chocolat fait que la sécrétion de bile augmente et que notre vésicule biliaire se met à pomper beaucoup plus fréquemment que si on ne mange pas de chocolat. Alors, ça peut fatiguer effectivement la vésicule biliaire et on peut avoir l'impression d'avoir, entre guillemets, mal au foie, puisque c'est une maladie qui n'existe qu'en France. Mais on peut avoir une certaine fatigue. Par contre, les gens qui ont tendance à faire des calculs biliaires, vous savez que le calcul commence par une espèce de sable qui vient s'agglomérer et qui forme les cailloux, eh bien là, il n'y a pas le temps de faire de l'agglomération puisque la pompe de la vésicule biliaire marche tout le temps et donc le sable est éliminé avant de se transformer en calcul. Alors, en ce qui concerne les troubles dyspeptiques, on dit « Oh là là, le chocolat, c'est dur à digérer, ça m'a donné une crise de foie, etc. » etc. Bon, Moi, je veux bien, mais effectivement, quand on a fait un bon repas et qu'à la fin du repas, on se dit, tiens, je mangerais bien un petit peu de chocolat avec mon café, et puis on en mange, et puis on trouve ça bon et on en mange un peu plus, et puis après on dit, oh là là, c'est lourd. Bon, forcément, on dit c'est le chocolat parce que c'est le dernier qu'on a mangé, et c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Mais tout ce qu'on a mangé avant, il faut aussi en tenir compte. Hein. Alors, il y a un dicton qui dit, il faut laisser de la place pour le fromage. Moi, je dirais, il faut laisser aussi de la place pour le chocolat et inclure la consommation de chocolat dans tout le régime alimentaire. Alors le chocolat, bon, bien entendu, c'est un aliment sucré, donc on va dire attention, lavez-vous bien les dents après avoir mangé du chocolat, bon, ça, on ne peut que le recommander, mais je voudrais aussi bien préciser quelle est sa responsabilité dans la formation des caries. Alors on mesure ça, enfin les dentistes mesurent ça grâce à un indice qu'ils appellent l'indice de cariogénicité, donc c'est la faculté à produire des caries, et ces indices, je les ai reportés sur le tableau qui est là, pour du sucre de cuisine, du sucre pur, hein, du saccharose, il est de 1. Pour le raisin, les grains de raisin, il est de 2. Et pour le chocolat, il est de 0,8. Donc, vous voyez, on aura moins de risques d'avoir des caries en mangeant du chocolat qu'en mangeant du raisin. En plus de ça, les polyphénols inhibent le développement microbien au niveau de la plaque dentaire, donc ça ralentit aussi le risque. Le fluor, dont on a parlé tout à l'heure dans les oligo-éléments, renforce l'émail des dents. Et les quelques phosphates qu'il y a tamponnent les acides, donc il y a une certaine lutte contre les caries. Tout ça, ça explique qu'on a un indice qui est relativement bas, alors qu'il y a quand même une présence de sucre qui n'est pas négligeable. Alors toujours en ce qui concerne le sucre, les sucres du chocolat, c'est essentiellement du saccharose, hein, il est très rapidement métabolisé dans notre organisme, et donc il augmente la glycémie. Certains nutritionnistes disent, dans certains diabètes et dans certaines conditions, pour des chocolats à partir de 70% de cacao, il n'y a pas de problème. Je laisse la responsabilité de ce qu'ils disent. Moi, j'aurais tendance à dire, attention quand même, globalement, quand on est diabétique, il faut pas trop abuser du chocolat. Et dans tous les cas, si on est vraiment amateur de chocolat et qu'on est diabétique, il faut vraiment aller chercher les hautes teneurs en cacao, au-dessus de 70 dans tous les cas. Alors, vous avez vu, je vous ai fait un tableau complètement idyllique du chocolat. Hein. On a envie de demander de faire une manifestation en sortant pour qu'il soit remboursé par la sécurité sociale, etc. Bon, il y a quand même quelques points faibles. Donc on a vu chez les diabétiques, il faut faire attention. En cas de reflux gastro-œsophagien, le chocolat est complètement à proscrire, parce que c'est là aussi, c'est la composition en matière grasse qui favorise ce reflux gastro-œsophagien, qui dilate les sphincters au-dessus de l'estomac, et donc avec tous les problèmes d'acidité et de remontée d'acidité qui peuvent générer des problèmes de cordes vocales, etc. Sur les coliques hépatiques, on dit qu'il faut pas manger trop de sucre quand on a ce genre de maladie. Eh bien, là, le cacao amène du sucre et des graisses, donc ça aussi, c'est plutôt à proscrire. Et puis, on signale des gens qui disent « je suis allergique au chocolat » ou « le chocolat me donne la migraine », etc. Alors là, c'est pas très clair. On ne peut pas passer sous silence le fait qu'il y a des gens qui se plaignent de ça et que manifestement, c'est pas subjectif, c'est réel, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Peut-être à cause de la présence de phényléthylamine et de thyramine, mais pour l'instant, le corps médical se pose beaucoup de questions là-dessus et on n'a pas vraiment élucidé. Toujours est-il que le problème existe réellement pour un pourcentage tout à fait faible de la population. Alors, peut-être avant de terminer, est-ce que vous voulez que je consacre 5 minutes à vous parler des matières grasses végétales du cacao ? Vous savez, ces fameuses matières grasses végétales qui ont défrayé la chronique il y a 2 ou 3 ans. Bon, on vous l'a expliqué tout à l'heure, dans la fabrication d'un chocolat, il faut à un moment donné rajouter du beurre de cacao. Pourquoi faut-il rajouter du beurre de cacao ? Ben, je vais vous demander 5 minutes de faire un petit peu d'arithmétique. On est parti de masse de cacao, qui a la même composition chimique que les graines de cacao, elles ont juste été torréfiées. Et en moyenne, le cacao contient 50% de matière grasse. On va dire, pour simplifier les choses, qu'on a rajouté autant de sucre qu'on a mis de masse de cacao. Donc le mélange, si on prend 100 grammes de masse de cacao qui contient 50 grammes de matière grasse, on va rajouter 100 grammes de sucre, on va avoir un mélange qui fait 200 grammes et qui contiendra combien de matière grasse ? Toujours 50. Donc en pourcentage, 25%, 50 sur 200. Donc 25% de matière grasse. Or, je vous ai dit tout à l'heure que la quantité de beurre de cacao qui est contenue dans le chocolat, c'est aux alentours de 30-35%. Ce n'est qu'à partir de cette teneur en matière grasse que l'on va avoir ce qu'on expliquait tout à l'heure, le brillant, le moelleux et voilà toutes ces saveurs, le fait que le chocolat va se casser net sous la dent et puis qu'il va fondre immédiatement dans la bouche. Si on n'a pas au moins 35% de matière grasse, ça se passera pas. Donc il faut 35%. Comme on en a que 25, ben, il faut en rajouter environ une dizaine. Bon, pour l'exemple que j'ai pris, hein, ça peut aller jusqu'à 15%. Donc on rajoute du beurre de cacao. qui vient donc de l'extraction de beurre de cacao, qui est fait en général sur des fèves d'un peu moins bonne qualité, puisque de toute façon c'est désodorisé. Tout ça, on l'a vu tout à l'heure. La matière grasse, le beurre de cacao qu'on rajoute, c'est la matière première la plus chère qui rentre dans la fabrication du chocolat, par rapport au sucre, par rapport à la masse de cacao, etc. Ça, c'est l'aspect économique. Ensuite, je vais dire du mal des Anglais, mais là, je suis vraiment très fâché après eux. Quand les Anglais sont entrés dans l'Union européenne, la réglementation, pour ce qui concerne le chocolat, prévoyait l'autorisation d'appeler chocolat un produit qui contenait jusqu'à 5% de matière grasse, qui n'était pas matière grasse de cacao, mais d'autres matières grasses végétales. Et chez eux, ça s'appelait chocolat. En France, et dans les autres pays qui constituaient, donc il y en avait 6 à cette époque-là, si j'ai bonne mémoire, les 6 pays qui constituaient l'Union européenne, la réglementation était la même. On avait le droit d'appeler chocolat qu'un produit qui contenait de la masse de cacao, du beurre de cacao, du sucre. Et puis les additifs, moins de 1%. Donc les Anglais ont présenté leur candidature, et puis parmi les points à régler, il y avait celui-là. Et l'Union européenne de l'époque a dit, bon, bah écoutez, on vous demande de vous aligner sur notre réglementation. Ok, on dit les Anglais, mais laissez-nous un peu de temps, il faut qu'on... Bon, il y avait des choses à mettre en ordre, administrative, etc. Donc ça ne s'est pas fait tout de suite. Et puis quand le délai qui leur avait été donné est arrivé à échéance, l'Union européenne a dit, dites, vous pensez là pour le chocolat, vous alignez sur nous? Et les Anglais ont dit, ah oui, mais attendez, non, nous on n'est plus du tout d'accord, parce que entre-temps, d'autres pays, comme le Portugal, comme le Danemark, comme l'Autriche, etc., sont rentrés dans l'Union européenne et ils ont la même réglementation que nous. Donc pourquoi ce serait nous qui nous alignerions sur vous et pas l'inverse? Alors bon, quand je dis ça aux Anglais, je dis, vous êtes des gens qui ne tiennent pas leur parole. Vous étiez engagé, vous ne l'avez pas fait, moi je ne veux pas savoir les conditions. Bon. Alors ça a duré des années et des années. C'était une bagarre qui a duré au moins 10 ans. Et puis les grands groupes chocolatiers, à l'exception de Barry Calbo, mais les grands groupes internationaux ont fait pression également sur l'Union européenne pour des raisons économiques. Et donc, le 23 juin 2000, le Parlement européen a accepté la directive autorisant d'appeler chocolat un produit qui contient jusqu'à 5% de matière grasse de cacao, non cacao. Alors, c'est passé dans le droit français le 3 août 2003. Donc, depuis le 3 août 2003, en France, on a le droit d'appeler chocolat un produit qui contient 5% de matière grasse végétale. On n'en a pas trouvé jusqu'à présent, mais je crois qu'il ne faut pas que la vigilance se baisse les bras. Alors, 6 matières grasses d'origine tropicale sont autorisées et l'adjonction ne doit pas dépasser 5% du poids total de la tablette. Pas 5% de la fraction matière grasse, mais 5% du poids total de la tablette. Bon, les 6 matières grasses, beurre d'ilipé, beurre de karité, huile de palme, huile de sal, huile de cocombe gorgie, huile de noyau de mangue. Ne me demandez pas ce que c'est le cocombe gorgie, j'en sais fiche rien. L'huile de palme, par exemple, on sait que c'est une huile qui contient beaucoup d'acides gras saturés et qui est pas très bonne pour la santé, justement. Ce que je veux voir surtout, c'est que si on prend que la fraction matière grasse du beurre de cacao, 5% de 35%, ramené à ça, si on prend cette fraction matière grasse, eh bien en réalité, les matières grasses végétales ajoutées, ça représente 14% de l'ensemble du groupe matière grasse. Alors 14%, est-ce que c'est suffisant pour ne pas... Enfin, est-ce qu'il y en a suffisamment peu pour ne pas embêter diminuer les bonnes propriétés du beurre de cacao? Est-ce qu'au contraire, 14%, ça commence à poser des risques? Bon, moi, j'aurais tendance à répondre une réponse de Normand un peu. Ça va dépendre de la matière grasse qu'on ajoute. Si c'est de l'huile de palme, effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Si c'est du beurre de karité, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis. Bon. À ma connaissance, les nutritionnistes ne se sont pas encore penchés sur la question, puis ils n'ont pas assez de recul, surtout. Donc il va falloir faire des études épidémiologiques pour savoir où est-ce qu'on en est exactement. Oui, alors bon, les matières grasses végétales, il y a quelques avantages. Il y a une meilleure maîtrise de la rhéologie. Si on met des matières grasses plus fluides, eh ben ça, comme on l'expliquait tout à l'heure, si on a besoin que ça coule bien, on va mettre des matières grasses plus fluides. Si on a besoin, au contraire, que le beurre soit bien solide, on en mettra qui ont un point de fusion plus haut. On pourra manger du chocolat en été sans que ça nous reste dans les doigts. Et puis, il y a les raisons économiques. Les inconvénients que je vois, c'est ce que je leur dis aussi aux Anglais. Je leur dis, si on rajoutait 5% de cognac dans votre whisky, est-ce qu'on l'appellerait toujours whisky? Donc l'appellation chocolat ne me convient pas. On ne devrait pas appeler chocolat un produit qui n'est plus du chocolat. L'étiquetage qui normalement devait être un gros placard sur la face avant de la plaquette matière grasse végétale, c'est tout, en tout petit derrière et il faut une loupe pour le lire. Et puis les questions pour la santé, hein, qu'est-ce qu'il en est des propriétés anti-cholestérol du beurre de cacao? Là pour l'instant, j'ai pas de réponse là-dessus.
C'était Michel Barrel, directeur de recherche au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il s'exprimait sur les effets thérapeutiques du chocolat. Alors vous l'avez compris, le chocolat, comme tous les autres aliments, ne doivent pas être diabolisés ou bannis de notre alimentation. Dégusté en quantité raisonnable, le chocolat ne fait pas grossir et ses vertus antioxydantes, antimorosité et énergétiques font de ce produit un allié puissant contre les coups de fatigue. Cette émission se termine ici. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez des informations sur la Fondation Pasteur et sur le CIRAD sur notre site internet www.canalacadémie.com. Au revoir et à bientôt.